briser son leadership spirituel. Et si le management n'était plus seulement synonyme d'efficacité et de rendement ? Et si le modèle qui épuise autant les hommes que la planète touchait à sa fin ? Et si quelque chose d'autre était en train d'éclore ? Un leadership qui redonne au spirituel sa juste place en entreprise. La société a besoin d'une nouvelle génération de dirigeants et managers audacieux qui osent réformer le système. Des leaders engagés et éclairés. Cette série de podcasts vous est proposée par Karine Mast, fondatrice de Brand Alphabet.
Dans ce troisième épisode, nous avons choisi de vous faire découvrir la vision de Charlotte Rivaton, co-dirigeante d'Exhibit Group et responsable du capital humain. Bonjour Charlotte, ravie de vous accueillir au sein de notre podcast. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est le récit derrière la création du groupe Exhibit et de sa filiale Exil ?
Bonjour, merci beaucoup pour cet accueil aujourd'hui. Le récit de la création d'Exil, c'est d'abord un récit familial, un récit d'être humain, et c'est le récit d'une entreprise. À l'origine, c'est une entreprise familiale qui s'appelle Exhibit Group, qui a été créée par mes parents à l'époque. C'est une petite imprimerie numérique qui était à Beausoleil avec deux personnes qui y travaillaient. Aujourd'hui, Exhibit Group, c'est 170 personnes, et c'était une création en 1991. Et puis, il y a quelques années, mon frère et moi avons perdu notre maman, qui était directrice générale. Et la même année, notre papa nous revendait ses parts. Et on se retrouvait du coup à la tête, mon frère et moi, d'une entreprise, d'une belle entreprise, et en se posant beaucoup de questions, de savoir comment est-ce qu'on allait la manager, avec l'un d'entre nous qui n'avait pas eu son BEP, l'autre, moi je suis instit à la base, institutrice spécialisée dans le handicap mental. Puis, de savoir comment est-ce qu'on allait pouvoir... continuer le parcours de cette entreprise et à la fois préserver l'âme et les valeurs qui nous avaient été transmises, les valeurs familiales, les valeurs de respect de l'être humain, les valeurs d'amour, les valeurs de... Et donc, on a transformé la gouvernance de notre entreprise, d'abord parce que on n'avait pas tout à fait toutes les compétences pour la manager et puis aussi parce qu'on avait besoin d'être entouré à ce moment-là. Comme dans toutes les histoires de vie, souvent, c'est quand on est face à l'adversité qu'on se rend compte qu'on a besoin du collectif et que le collectif nous sort de la difficulté. Et donc on a transformé la gouvernance et on a travaillé vraiment sur le partage de la gouvernance et sur la transformation de la culture de notre entreprise qui est passée d'une entreprise familiale finalement à une entreprise avec une gouvernance partagée et beaucoup moins pyramidale. Et puis au fur et à mesure on a travaillé sur la vision de notre entreprise, sur les valeurs de notre entreprise, sur comment on a décidé de les incarner. Et puis on a commencé tout doucement à se faire accompagner par des coachs, par des gens qui nous ont aidés à travailler sur notre ambition, sur les valeurs et sur notamment la vision à 10 ans. Et puis c'est là qu'on a pris conscience qu'il fallait qu'on ait une vision et un cap très défini. Et puis au fur et à mesure on a affiné ce cap et on a décidé d'aller s'inspirer à l'extérieur. Et dans ces inspirations, on a rencontré des gens comme la Convention des entreprises pour le climat, qui nous ont aussi apporté un autre élément qu'il fallait qu'on ait dans nos inspirations et dans nos besoins de comprendre le monde. C'est celui qu'il fallait qu'on transforme notre économie. Et c'est là qu'on a décidé aussi de créer Exil. Et Exil, c'est inspiré en fait du capital immatériel et de la gouvernance d'Exhibit Group. Mais c'est aussi comment est-ce qu'on crée de la valeur ajoutée dans le monde.
Merci beaucoup Charlotte pour cette introduction. Quelle est donc finalement la principale activité d'Exil Group ?
Exil, ça a trois pôles, trois territoires fondamentaux. Le premier territoire, c'est fort de notre expérience de terrain sur la gouvernance et sur les entreprises familiales, c'est d'accompagner les entreprises à leur transformation culturelle. Donc d'accompagner les comités de direction et d'accompagner les équipes de terrain aussi parce qu'on le fait beaucoup. La deuxième chose, c'est de sourcer des lieux inspirants. Parce que on a découvert aussi par notre parcours que pour pouvoir être imaginatif, créatif, force de proposition pour nos entreprises, il faut aussi aller se déraciner des lieux dans lesquels on travaille pour aller se connecter à quelque chose de différent, de plus grand, de très inspirant aussi. Et puis la troisième partie, c'est de créer des événements atypiques avec l'intention de construire une communauté d'acteurs engagés pour un monde plus juste. Et donc dans ces événements, en fait, on source des intervenants qui viennent de l'Europe. La volonté, c'est d'élever le niveau de conscience des gens qui seront présents et qui s'inscriront aux événements qu'on organise. Et c'est aussi de se dire que certaines personnes sont à la recherche de quelque chose d'assez mental, et donc il y a des conférences. Et d'autres personnes ont besoin de passer par le corps, d'autres ont besoin de passer par la musique, d'autres ont besoin de passer par la collaboration. Donc, c'est d'offrir aussi un panel de propositions qui fasse que quand les gens viennent à l'exil expérience, ils puissent découvrir un bout de pelote de laine à développer au fur et à mesure pour aller trouver leur champ des possibles à eux, en réalité.
Est-ce que vous pouvez justement nous raconter peut-être un dernier événement que vous avez organisé avec vos publics?
Le dernier événement qu'on a organisé, c'était un événement dont le thème était « se perdre pour se retrouver ». Il était en lien avec la théorie U, et l'idée, c'était de faire en sorte, par les conférences et les thématiques qui étaient abordées, de faire en sorte que les gens se perdaient un peu dans ce qu'ils avaient comme notion et comme vision du monde, et puis qu'ils puissent transformer leur vision, transformer les paradigmes et leur mode de pensée pour aller décider d'aller rayonner différemment dans le monde. Et donc, cet événement... Il y avait des gens comme Rob Hopkins qui à la fois nous a fait un point sur là où on était dans la planète, mais qui a aussi proposé des ateliers sur le champ des possibles. Et donc du coup, ça permettait vraiment de à la fois d'être dans la prise de conscience et à la fois de pouvoir se permettre d'être dans l'action.
Revenons justement sur cette fameuse théorie U. C'est en effet un processus imaginé par Joseph Jaworski et Otto Scharmer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce déroulé, Charlotte?
La théorie U, c'est vraiment un processus d'intelligence collective. L'intention, c'est de pouvoir trouver des solutions innovantes. Pour ça, c'est un processus qui se fait sur plusieurs jours. La première partie du processus, c'est de se mettre en relation au monde et aux autres. La deuxième partie du processus, c'est de connecter à soi et d'être dans ce qu'on appelle le presencing pour pouvoir en fait créer ce qu'on appelle être en possibilité de créer le futur émergent. Pour ça, ça nécessite d'abord de faire un temps d'arrêt. Faire un temps d'arrêt pour un chef d'entreprise, pour un comité de direction, déjà, c'est quelque chose qui est complexe à comprendre et à analyser. Parce que la relation au temps dans le monde de l'entreprise, on est souvent dans une relation d'urgence. Le temps, c'est de l'argent, souvent c'est ce qu'on nous dit. Et en réalité, là, d'abord, on crée un nouvel espace. Donc la relation au temps est différente, la relation aux autres est différente. Et donc du coup, ça change en fait la façon d'observer les choses et d'accueillir ce qui se passe autour de nous. Et quand on change la façon d'être en relation au monde, eh bien, on change la façon dont on peut avoir de l'intuition et sentir ce qui va pouvoir être précurseur pour demain. Mais pour ça, il faut accepter de rentrer dans ce processus-là qui est assez troublant, qui peut tourmenter, qui peut ouvrir des espaces qui sont des espèces d'espaces de voie du jugement, de culpabilité. Et donc, du coup, c'est un processus qui mérite d'être accompagné parce qu'il peut tourmenter quelqu'un, alors que voilà, il offre l'opportunité d'ouvrir des espaces d'émergence.
Et quels sont justement les bénéfices et les feedbacks qui sont exprimés par les participants, chefs d'entreprise, dirigeants?
La première chose, c'est tout d'un coup la prise de conscience que de prendre une seule journée pour soi en tant que dirigeant, ça crée un espace potentiel incroyable. Un patron de PME a peu de temps pour lui en réalité, d'abord parce qu'il ne se l'autorise pas, parce qu'il y a des codes dans l'entreprise et que prendre du temps pour soi, ça peut nécessiter de dire qu'on prend pas soin des gens avec qui on bosse, ça peut faire dire qu'on prend plus soin de soi que de ses collaborateurs, ça peut vouloir dire plein de choses dans l'inconscient collectif. La première réaction, c'est ça. Tiens, c'est intéressant de savoir quand je prends du temps pour moi, ce qui est en train d'émerger de différent. La deuxième chose, c'est de prendre du temps pour s'inspirer. Au départ, quand on est chef d'entreprise et industriel, on se demande bien pourquoi est-ce qu'on va aller participer à une conférence sur le climat ou sur l'intuition ou sur tout autre sujet. Et en réalité, quand on prend le temps d'écouter ça, tout d'un coup, ça ouvre des nouveaux espaces. Et le retour que j'ai, c'est de dire, ça a ouvert des espaces chez moi que j'avais plus ouverts depuis mon enfance, en fait, que j'avais plus ouverts, des espaces de créativité absolue. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ça reconnecte à l'intuition. Ça câble en fait sur le monde visible, mais aussi sur le monde invisible, en tout cas invisible au moment où on va dans ces conférences. Et donc ça transforme les chefs d'entreprise en, j'allais dire, en leaders charismatiques, mais c'est presque un peu une injonction de dire ça. En tout cas, ça leur donne de l'agilité. Ça leur permet de plus être connectés aux résultats et à l'argent, mais plutôt à l'intention. Ça permet de se mettre en mode solution. Ça permet de travailler sur son ego, de travailler sur son humilité, par exemple de reconstruire des croyances aidantes et pas des croyances limitantes. Voilà, ça, en fait, ça permet d'explorer un nouveau champ.
Donc finalement, c'est mieux comprendre ce que l'on ressent au fond de nous, ça nous permet de cheminer vers son soi authentique. Quel intérêt finalement pourrait-on espérer pour une entreprise ou pour une organisation d'une telle démarche d'intuition ?
En fait, je pourrais vous parler de deux cas concrets. Le premier cas, c'est dans une entreprise publique qui accueille du public, justement. Et c'est de savoir comment la prise de conscience, c'est comment est-ce que je peux être une entreprise de service public et à la fois ne pas être en relation suffisamment avec les humains qui viennent chez moi. Et donc, comment est-ce que vous pouvez nous accompagner là-dedans ? Le premier travail, c'est toujours d'abord de prendre des informations du terrain. Et donc, c'est de réunir les gens qui travaillent là en leur disant « Et vous, votre avis, c'est quoi ?» Et en réalité, c'est quelque chose qui se fait peu dans les entreprises de prendre de l'information du terrain, alors que souvent, ce sont ceux qui font, qui savent. Donc, en leur posant des questions, on a tout de suite des solutions très, très pratiques. Et donc la première démarche, ça a été de demander aux gens qui travaillent là-bas, à votre avis, comment est-ce qu'on pourrait faire pour créer des vraies relations avec les humains qui viennent. Et puis, il y a les idées qui sont ressorties, sachant qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas de budget. Elles sont toutes simples, en fait. D'abord, comment est-ce qu'on change l'intérieur de là où on travaille ? Comment est-ce qu'on se met en relation physiquement avec les gens et qu'on sort de derrière notre vitre ? On leur fait vivre aussi une expérience client, parce que quand on est dans une boutique de fringues de luxe, on crée une expérience client, mais quand on est dans un service public, on n'a pas forcément travaillé sur l'expérience client, alors qu'on pourrait vraiment la travailler. Donc ça, c'est un vrai cas concret et ça a transformé ce pôle d'activité, en tout cas. Le deuxième cas concret que je peux vous donner, c'est que nous, on est une entreprise d'impression numérique, on fabrique des décors et on est assez peu en concurrence avec les gens avec qui on travaille. On travaille toujours en bonne intelligence, c'est important dans notre fonctionnement. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un monsieur d'une quarantaine d'années qui a créé une petite boîte de stand qui vient juste de se monter, qui m'a dit « Voilà, j'ai beaucoup entendu parler de vos systèmes de management et je ne sais pas trop comment m'y prendre, moi, mais j'aimerais bien et travailler sur la protection de l'environnement et travailler sur mon système de management. » Et l'idée, c'est de lui dire « Mais ok, mais où est-ce que la première chose, c'est quelle est ta vision et où est-ce que tu veux aller ?» Donc, on a fait à peu près le même processus. On est allé sur place, ils sont que trois là-bas. On a travaillé sur leur vision à 3 ans. Puis leur vision à 5 ans, et puis on a mis en place un plan d'action à 1 an sur comment est-ce que je vais faire pour prendre soin de mes nouveaux collaborateurs, qui sont mes futurs recrutements, comment est-ce que moi, en tant que chef d'entreprise, je décide de me faire coacher. Et ça, c'est un cas concret, parce que lui, là, il doit commencer par ça, en fait, pour lui en tout cas. Donc il doit commencer à faire son propre parcours de quel chef d'entreprise j'ai envie d'être et qu'est-ce que j'ai envie de créer pour le futur.
Nous avons beau faire, il nous faut aussi être en entreprise. Cette reconnexion justement à cette dimension spirituelle, elle est vitale, elle est essentielle pour vous en tant que femme. Il est vrai qu'aujourd'hui, dépression, burn-out sont les mots de notre époque et aussi en entreprise. 2 personnes sur 3 qui souffrent d'un burn-out sont des femmes. Quel type de réponse vous pouvez justement proposer en tant que manager du groupe Exil ?
D'abord, merci de poser cette question. La question d'être une femme chef d'entreprise, c'est un sujet complexe parce que à la fois, moi, plus le temps passe dans mon expérience professionnelle et plus je me rends compte que j'aime pour le coup particulièrement travailler avec les femmes, que je trouve brillantes, disponibles, flexibles, créatives, ouvertes aux propositions, fortes de propositions, puissantes. J'ai découvert, dans justement le fait de se relier à sa spiritualité, j'ai découvert qu'il y avait une notion de transformer sa relation au pouvoir dans une relation à la puissance. Et du coup, j'ai découvert que c'est peut-être un petit peu noir et blanc ce que je vais dire, mais c'est qu'il m'a semblé observer que les hommes avaient plutôt tendance à se connecter à leur pouvoir, alors que les femmes étaient en quête de reconnexion à leur puissance. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que du coup, dans la recherche de spiritualité, les femmes sont assez ouvertes à aller vers ces sujets-là et elles sont en train de trouver et de mettre en œuvre une puissance hors norme dans le monde de l'entreprise. Elles s'autorisent à lâcher leur ego, elles s'autorisent à faire des propositions et à les mettre au centre et à accepter qu'elles ne soient pas prises en compte. Elles s'autorisent à être dans la quête de sens pour elles et pour le collectif. Dans Exil Experience, l'été, on a décidé de faire justement venir les enfants à l'expérience Exil. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise femmes qui viennent à l'expérience. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui viennent aussi avec leurs enfants d'ailleurs. Et le fait de séparer le monde de l'entreprise et le monde de la famille, c'est nécessaire. Et ça peut aussi être problématique. parce que on peut avoir envie d'être un chef d'entreprise inspirant, mais par contre de trouver une posture d'alignement entre sa façon de vivre le monde de l'entreprise et sa façon de vivre le monde de la famille. Et donc la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on trouve une posture qui est juste et alignée entre ces deux mondes-là. C'est aussi la question que se posent les femmes quand elles rentrent chez elles et qu'elles culpabilisent, ou les hommes seuls, et qu'elles culpabilisent parce qu'elles sont pas tout à fait au bon niveau dans l'entreprise, pas tout à fait au bon niveau en tant que mère de famille. Potentiellement, on se sent assez souvent nulle. Enfin, on a envie de se raconter l'histoire qu'on n'est pas à la hauteur. Et du coup, ben moi, j'avais envie de créer un événement où tout le monde est à la hauteur. Les enfants sont libres la journée, mais ils peuvent faire un câlin à leur papa ou à leur maman quand c'est le moment pour eux. Les parents sont là, mais ils ont le droit de prendre du temps pour se former, pour s'informer, pour grandir. Mais ils peuvent aussi avoir envie d'avoir un temps privilégié et qualitatif avec leur enfant. Et donc, il y a la question aussi du quel contrat social et quel nouveau contrat social on décide de mettre en œuvre pour avoir une posture d'alignement dans tous ces mondes-là.
Merci beaucoup, Charlotte. Donc, finalement, on parle d'alignement, mais on parle aussi quelque part d'éthique, une éthique fondamentale du leadership. Est-ce que c'est ce qui nous permettrait justement de créer les organisations et la société dont on a envie pour demain ?
Pour moi, c'est même pas une question, la question de l'éthique. Ça fait partie des sujets d'un chef d'entreprise, comment être éthique. Du coup, je vais vous partager une information. La semaine dernière, j'étais sur un salon qui s'appelle Event. C'est le salon de l'événementiel. Et il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui viennent nous voir en nous disant « Est-ce que vous avez, vous, Exhibit Group, une politique RSE ?» Et en fait, je trouve que c'est une question tellement has-been aujourd'hui, en 2023, de demander à une entreprise si elle a une politique RSE, alors que en fait, en tant que chef d'entreprise, on doit gouverner avec des indicateurs RSE. Et en fait, on peut pas avoir une politique de développement d'entreprise et parallèlement à ça, une politique RSE qui viendrait ornementer une espèce de gouvernance. Je trouve ça assez malsain. Donc nous, on a pas mis de panneau vert pour dire politique RSE sur notre stand, mais en fait, on gouverne avec la politique RSE, on est éthique. Une des façons de compléter notre éthique ces derniers temps, en lien avec la Convention des entreprises pour le climat, ça a été aussi d'évaluer notre impact carbone, et donc du coup d'envoyer à toutes nos parties prenantes notre évaluation carbone, et notamment de dire à nos banques qu'à cause d'eux, on avait un impact carbone qui était assez élevé, et donc de leur poser la question de savoir comment éthiquement ils allaient pouvoir nous faire des propositions dans les années à venir qui puissent être acceptables. Être éthique, ça permet aussi, grâce à ces indicateurs-là, pour être très concret, ça fait des années qu'on demande à nos fournisseurs de transformer leurs matières premières. Ça nous a permis de leur envoyer notre impact carbone pour leur dire ça fait des années qu'on vous le demande, là maintenant. C'est obligatoire parce qu'on a des engagements, il y a des accords de Paris, on a des engagements à respecter en tant que chef d'entreprise. C'est pas négociable de ne pas les respecter. Et donc, nous, on a fait le job. Maintenant, on sait comment on doit faire pour le réduire, on sait ce qu'on doit faire l'an prochain et comment vous allez mettre en place des actions pour continuer à être notre fournisseur. Donc être éthique, c'est ça aussi.
On approche bientôt de la fin de notre podcast. Quel conseil justement donneriez-vous pour les leaders, les décideurs qui nous écoutent aujourd'hui ?
Le premier conseil, ce serait d'aller prendre le plus souvent possible des informations sur le terrain. Le tout en étant reposé et ouvert aux informations informelles qui vont lui être transmises, simplement en observant les gens avec qui il travaille, en passant à la machine à café, en étant en capacité de prendre de l'information verbale et non verbale dans son entreprise. Ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Le deuxième conseil, ce serait de passer du temps à écouter les gens, vraiment, à les regarder et à prendre en compte leurs propositions. Le troisième conseil, ce serait de toujours être dans l'incertitude et dans l'expérimentation. En tout cas, nous, c'est quelque chose qui nous a beaucoup servi, d'expérimenter des modes de gouvernance différents, d'oser faire des choses différentes, collaborer différemment, communiquer différemment, tester des choses et s'autoriser vraiment le droit à l'erreur et passer des temps aussi de travail à se poser des questions, à se mettre en position méta pour se poser des questions sur, en fait, où est-ce qu'on va, pourquoi on y va, comment on décide chez nous, comment on décide de se parler, comment on décide de s'écouter. Toutes ces questions qu'on peut se poser peut-être dans une famille, mais assez rarement dans une entreprise. Je lui conseillerais de passer du temps à prendre soin de lui, parce que quand on prend soin de soi, on a moins de mal à prendre soin des autres. À continuer à être dans la quête de sens, et à savoir notamment qu'est-ce qui le pousse à continuer sur ce chemin-là, quelle est surtout sa création de valeur et quelle trace il a envie de laisser demain. Et le dernier conseil, ce serait celui de ma mère. Quand tu vas quitter ce monde, il faudra quand même que tu te poses deux questions fondamentales. C'est est-ce que ton arrière-grand-mère serait fière de toi ? Est-ce que ton arrière-petite-fille sera fière de toi ?
Merci à Charlotte Rivaton pour sa participation. Dans le prochain épisode de Oser son leadership spirituel, nous vous proposons de rencontrer Raphaël Griffon, joaillier et créateur, qui nous fera part de ses voyages initiatiques et de ses rencontres spirituelles et inspirantes. Et d'ici là, restez zen.